Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Le cinéma a fait de lui le traître dans un film qui retrace sa vie. Une vie de mafieux repenti. Mafieux, il l'était au sein de Casa Nostra. Repenti, il ne s'est jamais considéré comme cela. Pourtant, il a tout balancé. Je vous raconte le Pentito, qui a brisé l'omerta de la mafia, Tommaso Buscetta. Nous sommes le 15 juillet 1984 sur le tarmac de l'aéroport de Rome. C'est un homme en petite forme qui débarque entouré de deux policiers. Son nom, Tommaso Buscetta. L'homme arrive du Brésil où il a passé plus de 9 mois en prison avant son extradition vers l'Italie. Il est un peu pâle car il a tenté, au moment de son départ, de se suicider en avalant de la strychnine, ce qui en dit long sur le fait qu'il n'était pas pressé de rentrer dans son pays. Or, Tommaso Buscetta a survécu et il est bien obligé de fouler le sol italien qu'il avait fui 4 ans plus tôt lors d'une permission de sortie alors qu'il était incarcéré pour trafic de drogue. Retour donc en prison. Mais avant, un magistrat venu spécialement de Sicile tient à lui parler. C'est le juge Giovanni Falcone qui lutte depuis des années contre la mafia. Ça tombe bien, Tommaso Buscetta est un mafieux. Et les deux hommes se connaissent déjà. Falcone avait fait le voyage jusqu'au Brésil pour tenter, sans succès il faut bien l'avouer, de lui soutirer des informations. Mais cette fois-ci, les choses ont changé. Et ce jour-là, dans un bureau de la police romaine, Buscetta annonce « Je vais révéler tout ce que je sais ». Et des choses, il en sait beaucoup en effet. Né en 1928 dans un quartier pauvre de Palerme, en Sicile, Tommaso Buscetta s'oriente vite vers une carrière criminelle dans cette île régie depuis des années par des pouvoirs parallèles. Dans les années 1860, la Sicile rurale, tissée de réseaux d'entraide et d'obligeance, a vu émerger le système mafieux autour de la culture et de la vente des agrumes. Des citrons, on est bien vite passé à de vastes trafics de contrebande, puis de drogue, en plus du racket sur les commerces et des collusions avec les pouvoirs publics. Buscetta est devenu un agent haut placé dans les réseaux mafieux entre Sicile et États-Unis, où il s'installe dans les années 1960 sur fond de guerre des clans dans son île natale. Arrêté à New York pour trafic de drogue, il fuit au Brésil avant d'être extradé une première fois vers l'Italie. Lorsqu'il parvient à fuir à nouveau au Brésil en 1980, c'est pour échapper à la prison autant qu'à la deuxième guerre de la mafia qui fait rage pour le contrôle du juteux trafic international d'héroïne. De 1980 à 1983, Palerme se jonche littéralement de cadavres. Les mafieux règlent leurs comptes et s'en prennent à quiconque se met sur leur chemin, qu'il soit témoin, policier, magistrat ou préfet. La population est à bout, écœurée de nettoyer le sang des rues pendant que les autorités publiques passives en ont aussi sur les mains. Cette guerre, c'est le clan de Corleone qui la gagne, aux dépens de tous les autres, notamment celui de Tommaso Buscetta qui perd 2 de ses fils et 10 autres membres de sa famille, une véritable hécatombe. Alors, quitte à tout perdre, autant tout dire. Et pour le juge, tout noter. De mi-juillet à début septembre 1984, du matin au soir, le juge Falcone écrit tout ce que Tommaso Buscetta lui raconte. Falcone et le pôle anti-mafia dont il fait partie sont déjà au courant de nombreux crimes grâce à de minutieuses enquêtes menées en Italie comme à l'international. Mais ce que Buscetta révèle va bien plus loin. Il décrit précisément la structure hiérarchisée de Cosa Nostra, comme se nomme elle-même l'organisation mafieuse. Si l'on avait eu vent de cette appellation dès les années 60, Buscetta, en brisant l'omerta, la loi du silence, lui donne toute sa consistance. Des soldats du bas de l'échelle, aux parrains qui dirigent les familles, l'ordre est quasi militaire pour ces hommes dont l'honneur se joue sur quelques préceptes de dignité, de loyauté absolue et des rituels initiatiques teintés de magie et de religiosité. Au sommet de la pyramide, la coupole, commission suprême, réunit tous les chefs décisionnaires qui peuvent d'un geste commanditer un assassinat ou gérer leur trafic sans avoir à se salir les mains. Selon les mots mêmes du juge Falcone, Buscetta livre la clé de compréhension qui manquait. « J'ai collaboré avec Giovanni Falcone », dira plus tard Buscetta, « parce qu'il est un homme d'honneur ». Une relation singulière se tisse en effet entre les deux hommes qui ont grandi dans les mêmes quartiers populeux et s'expriment avec les mêmes codes, bien que leur vision de l'honneur soit radicalement différente. Car attention, Buscetta ne se repent pas. Il est un homme d'honneur et le restera. En tout cas, c'est ce qu'il dit, ce qu'il affirme, ce qu'il croit. C'est le clan Corleone qui a trahi Cosa Nostra en faisant une violente association de malfaiteurs, là où Bousquet a défend une organisation bienfaitrice née, je cite, « pour défendre les plus faibles face aux abus des puissants ». Tommaso Buscetta n'est pas le premier de ceux que la presse nomme repentis. Les textes de loi parlent, eux, de collaborateurs de justice. Dans les années 70, un certain Leonardo Vitale, en pleine crise mystique, s'était rendu aux autorités en s'accusant de meurtre et en livrant des noms de mafieux, mais on ne l'avait pas cru. Deux semaines après sa sortie de prison, il avait mystérieusement disparu. Cette fois-ci, Falcone et ses collègues croient Buscetta et vont vérifier nombre d'informations pour étayer les accusations et lancer des centaines de mandats d'arrêt en vue du plus retentissant des procès. Le 10 février 1986, dans un bunker géant construit spécialement pour l'occasion près de la prison de Palerme, s'ouvre le maxi-processo. 474 prévenus, dont 119 en fuite, doivent répondre de leurs actes ou de leur appartenance à la mafia, désormais crime en tant que tel. Les audiences virent parfois à la farce tant les accusés multiplient les outrances pour enliser les débats. Mais lorsque le 3 avril 1986, Tommaso Buscetta pénètre dans le prétoire entouré d'une dizaine de policiers pour le protéger, tout le monde se tait. Certains mafieux espèrent encore qu'il reviendra sur ses dépositions. Ils seront déçus. Buscetta passe presque une semaine à la barre derrière des parois de verre blindées et réitère tout ce qu'il avait dit au juge Falcone. Après 1 an et 10 mois de procès, les verdicts tombent. 360 accusés sont condamnés pour un total de 2665 années de prison. Buscetta repart en Amérique où il bénéficie d'un programme de protection puisqu'il témoigne aussi au cours du procès de la Pizza Connection, réseau qui gère le trafic de drogue aux États-Unis. La mafia a pris un sérieux coup, mais beaucoup de condamnés seront libérés en appel aux grandes dames du juge Falcone, qui continue son combat jusqu'à ce qu'il soit tué dans un attentat à la bombe en mai 1992, tout comme son collègue le juge Borsellino 2 mois plus tard. L'Italie est atterrée. Et c'est cet événement qui pousse Buscetta à en dire encore plus, notamment sur les liens entre Cosa Nostra et les pouvoirs politiques. Il participe encore à de nombreux procès avant de terminer sa vie aux États-Unis sous une fausse identité. Tommaso Buscetta décède en 2000 à Miami en ayant pris le temps, dans l'un de ses derniers entretiens avec un journaliste, de critiquer la justice italienne qui, selon lui, comble de l'ironie, accorde trop d'importance à la parole des repentis.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Tommaso Buscetta, j'ai le plaisir d'accueillir un spécialiste de la mafia italienne. Bonjour Fabrice Rizzoli.
Bonjour.
Pouvez-vous nous dire quelle place occupe au départ Tommaso Buscetta dans la grande organisation mafieuse Cosa Nostra ? Dans l'organigramme, il est où lui ?
C'est un mafieux extrêmement atypique. Il n'a aucun grade, il va rester soldat toute sa vie. Et pourtant, son entrée extrêmement jeune dans l'association criminelle à 17 ans, sa capacité à tisser des relations avec des chefs mafieux, qui deviendront aussi des chefs mafieux, et aussi avec toute la sphère légale, parce que c'est aussi un très grand entrepreneur qui rapporte beaucoup d'argent. Et le fait qu'il ait beaucoup voyagé et un charisme incroyable va faire qu'il sera, pour ce qu'on appelle le peuple de Cosa Nostra, quelqu'un d'extrêmement important, reconnu comme une espèce de leader, mais à côté de l'organigramme officiel. À telle enseigne que lorsqu'il rentre dans le tribunal du maxi-procès, les 300 accusés se taisent. Ils reconnaissent en lui la légitimité du chef.
J'ai évoqué le fait que Tommaso navigue beaucoup entre la Sicile et les États-Unis, va aussi au Brésil. Quelles sont ses missions au sein de la mafia ? Il supervise les exportations de la marchandise, il est un peu le ministre du commerce extérieur.
Oui, très jeune, il va au Brésil ouvrir un magasin de vitres parce que son père, c'était le métier de son père, mais ça ne marche pas. Il revient donc à Palerme pour finalement repartir, et là c'est documenté, au Brésil, mais pas seulement, aux États-Unis, au Canada, au Mexique, et très clairement, notamment dans les années 60, il met en place 2 grands trafics, d'héroïne et de cocaïne, mais à destination des États-Unis. C'est-à-dire qu'il est directement au Brésil, il arrive à trouver de la cocaïne auprès des cartels colombiens, et il arrive à faire venir de l'héroïne d'Asie du Sud-Est, mais c'est pour approvisionner le marché américain. Tout cela fait rentrer beaucoup d'argent, et encore une fois, elle a cette capacité entrepreneuriale, déjà, c'est un commerce, la drogue, et deuxièmement, de réinvestir dans l'économie légale, puisque par exemple, il va avoir une compagnie de taxis C'est très drôle, mais Pablo Escobar fera pareil 20 ans après.
Dans votre livre « La mafia de A à Z », vous expliquez qu'à l'époque où Tommaso Buscetta témoigne, le statut de repenti pour les mafieux n'existe pas. Et vous dites même qu'il est le premier grand mafieux à témoigner au cours d'un procès. Avant lui, personne n'avait jamais osé parler aux autorités légales.
Si, alors d'abord, les mafieux sont de grands bavards, contrairement à ce qu'on croit, mais ils parlent en confidence. C'est exactement comme en France, on donne un ennemi à la police pour qu'il soit éliminé. Il a existé aussi ce qu'on appelle des gens qui voulaient bien témoigner au tribunal, mais ils arrivaient pas vivants. Et puis vous avez rappelé l'exemple incroyable de Leonardo Vitale, qui effectivement, lui, va tout dire, va passer 7 ans dans un hôpital psychiatrique et sera assassiné dès sa sortie au mois de décembre devant sa mère. A contrario, Tommaso Buscetta, puisqu'il est protégé par les marshals américains, puisqu'il est impliqué dans le trafic de drogue aux États-Unis, il est protégé par la police américaine, et là, va pouvoir arriver vivant au tribunal et effectivement parler. Il va y avoir des confrontations, enfin une, avec le plus haut gradé des mafieux présents au maxi-procès, donc derrière les barreaux. Et là, Buscetta va remporter le combat par KO contre le mafieux le plus haut gradé.
Mais il est le premier repenti. Et pour autant, le terme ne lui convient pas. Il n'a pas l'impression, quand il balance tout au tribunal, De faire son mea culpa ?
Bon alors, moi, le terme de repenti ne me plaît pas non plus, parce qu'il est très religieux, et qu'effectivement, il se repent de rien. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qu'on demande aux collaborateurs de justice, oui, qui est le terme officiel. On leur demande de dire toute la vérité, de donner tous leurs avoirs, et de tout dire pendant les procès. Donc, il faut comprendre que Buscetta va être le premier collaborateur de justice sans loi italienne. La loi arrivera en 91, mais protégée par les États-Unis. Et on ne lui demande pas de regretter d'avoir assassiné un tel et un tel. D'ailleurs, il sera condamné pour homicide. On sait qu'il a, on sait qu'il a tué. On sait qu'il a fait du trafic de drogue. Il a été condamné pour trafic de drogue. Alors que lui a dit qu'il n'avait jamais fait de trafic de drogue. Vous comprenez bien que c'était le premier repenti, qu'il n'était pas protégé par la loi italienne et que donc, très clairement, on lui a permis certains mensonges. Aujourd'hui, si vous dites que vous n'avez pas fait de trafic de drogue et que vous faites du trafic de drogue, vous perdez la protection. Donc, c'est quand même un personnage atypique, historiquement important, c'est le premier.
Et en quoi est-ce que on dit que Tommaso Buscetta permet vraiment d'expliquer concrètement et pour la première fois ce qu'est la mafia de l'intérieur ? Ça a été une aubaine pour les juges, mais qu'est-ce qu'il a raconté alors ?
Et il a parce que quand vous étudiez un phénomène criminel, si vous n'avez pas un témoignage de l'intérieur, vous avez juste des policiers qui écoutent à travers les portes, les écoutes téléphoniques, les enquêtes patrimoniales, c'est très bien. Mais en tenant compte d'une mafia où la loi du silence était extrêmement puissante, où effectivement on n'avait pas de témoignage de l'intérieur, là on va avoir un décodage. C'est-à-dire que très souvent, on voit bien qu'il y a un meurtre, on sait bien que c'est la mafia, mais quand même on ne sait pas très bien qui, ou si on sait qui, on ne comprend pas bien pourquoi. Et très clairement, l'organisation dont vous parlez, dite pyramidale, même si elle est exagérée, un chef, un sous-chef, des soldats qui obéissent assez aveuglément, ça va être très bien raconté par Tommaso Buscetta. On va bien comprendre qu'une des spécificités des mafias, et en particulier siciliennes, c'est que les chefs, effectivement, ne participent pas à l'homicide à partir d'un certain moment. Ils donnent des ordres. Mais si vous avez quelqu'un qui dit « j'ai tué sous ordre d'eux » et que vous avez d'autres éléments de preuve, vous pouvez commencer à condamner des gens pour avoir commandité un homicide. Et ça, c'est très difficile dans le crime organisé.
Et est-ce qu'à la suite du maxi-procès de 1986, Tommaso Buscetta, il a été rejoint par d'autres collaborateurs de justice qui ont accepté de parler?
Déjà dans le maxi-procès, vous avez Salvatore Contorno qui vient témoigner, mais il n'est pas du tout du même acabit. C'est un tueur bas de gamme, un peu ras du front, qui va venir s'exprimer en dialecte sicilien. Il va falloir amener un traducteur pour faire l'audition, vous comprenez? Donc, ce n'est pas pareil. Il ne connaît pas les mêmes personnes, la sphère légale, il ne connaît pas les chefs mafieux. Salvatore Contorno va venir témoigner parce que ça fait 3 fois qu'il échappe à une tentative d'assassinat. Donc, ça y est, il a compris qu'il allait mourir. Donc, il vient témoigner. Et après, avant même la loi de 91, vous aurez des grands repentis, Salvatore Cancemi, Madonia, qui viendront témoigner du trafic de drogue, des complicités politiques, avant même la loi, et depuis, beaucoup de personnes viendront éclairer ce que c'est que la mafia.
Et le réalisateur italien Marco Bellocchio a consacré un film à la figure de Tommaso Buscetta dans Le Traître, qui est sorti en 2019.
Nessuno si immaginava che lei collaborasse con un giudice, lo sta facendo.
Est-ce que vous l'avez vu et est-ce qu'on peut le recommander aux auditeurs pour mieux comprendre toute cette histoire ?
Oui, je l'ai vu, je suis bon public, c'est plutôt bien fait, un cinéma un peu moderne, italien, etc. Je le conseille parce que c'est quand même documenté, c'est basé sur la réalité. On en sait un peu plus sur la personnalité intime de Tommaso Buscetta. On voit bien quand même que ce mafieux qui a pourtant perdu ses enfants, étranglés, dissous dans l'acide, en avait vraiment marre. Et qu'il était atypique parce qu'il était déjà différent. Il faut comprendre par exemple qu'un collaborateur de justice un jour a été interrogé par un psychiatre qui lui a dit « Mais pourquoi vous faites tout ça ? Les homicides, la prison, le stress, tout ça et tout. » Le mafieux lui a dit « Vous savez, il y a un proverbe sicilien qui dit « Commander, c'est mieux que baiser. » Parce qu'effectivement, commander donne plus de jouissance que l'acte sexuel. Force est de constater que Buscetta, avec ses trois femmes, lui, n'aimait pas tant commander que ça.
Heureux homme. Merci Fabrice Rizzoli d'être revenu avec nous sur cette figure du repenti qui n'en était pas vraiment un et qui a permis de mieux comprendre la mafia. Je rappelle que votre livre « La mafia de A à Z » est toujours disponible aux éditions Timbuktu. Ouais,
je merci m'aperçois beaucoup que je suis pareil en fait. Commander c'est mieux que baiser, mais moi je commande à manger. Je crois que ma vie est un échec.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.